Le musée du Louvre-Lens présente actuellement une importante rétrospective de l'œuvre de Charles Le Brun, le peintre du Roi Soleil. Une exposition importante, tant par le nombre des peintures, de sculptures et de tapisseries présentées, mais aussi parce qu'elle restitue l'énergie de la vie artistique française de la seconde moitié du XVIIe siècle. Deux commissaires et un scénographe ont travaillé ensemble sur la préparation de cette exposition. Je vous propose de les retrouver pour une visite complète de la galerie temporaire qui accueille donc cet événement jusqu'au 29 août 2016.
Nicolas Milovanovic, je suis conservateur au département des peintures du musée du Louvre.
Donc l'idée de cette exposition ?
Alors l'idée c'est de rendre hommage à Charles Le Brun, qui est le plus grand artiste français de la seconde moitié du XVIIe, enfin qui est l'artiste du siècle de Louis XIV, hein, disons-le comme ça, et qui a été un peu oublié là depuis, on va dire, deux siècles, hein, depuis la Révolution française environ, et il a bénéficié quand même d'une grande rétrospective, mais c'était il y a plus de 50 ans, hein, c'était en 1963 au château de Versailles. Depuis, une nouvelle génération de chercheurs se passionne pour Le Brun. Alors Bénédicte Gady et moi-même, qui sommes les commissaires de l'exposition et qui, ça fait 20 ans qu'on travaille tous les deux sur Le Brun, mais aussi la génération qui suit, des trentenaires qui soutiennent des thèse en ce moment sur Le Brun. Donc il y a un nouveau regard en fait sur l'artiste et il nous semblait qu'il était temps de revoir l'ensemble de sa carrière. L'idée est ambitieuse, c'est vraiment de proposer un nouveau regard sur Le Brun depuis ses débuts jusqu'à sa mort.
Une partie des œuvres sont présentées dans cette exposition, proviennent du fond du musée du Louvre à Paris, d'autres de l'extérieur, puis il y a aussi ces petites choses qui sont intéressantes pour voir comment Le Brun travaillait.
Absolument. En résumé, je dirais, le point de départ, c'est le Louvre, parce qu'au Louvre, on a le fond le plus extraordinaire au monde, vous imaginez. En matière de dessin, on a plus de 2000 dessins de Le Brun, on a plus de 350 cartons pour les grands décors, on a une vingtaine de peintures, des grands décors, n'oublions pas la galerie d'Apollon, donc évidemment, tout part du Louvre. Moi-même, d'ailleurs, et Bénédicte y travaillons. Mais après, il a fallu d'abord des partenaires très importants, parce que Le Brun est aussi très important à Versailles, château de Versailles, le Mobilier National, donc les Gobelins, aussi la Bibliothèque Nationale de France, donc c'est des partenaires privilégiés, le château de Vaux qui s'associe aussi au projet. Donc sans eux, l'exposition n'aurait pas non plus pu voir le jour. Ensuite, Le Brun est dans des grandes institutions à l'étranger, alors plusieurs musées anglais, Nottingham, Dulwich, aussi italiens, les Offices, le Modène, le Metropolitan Museum de New York qui a acheté récemment des Le Brun extrêmement importants. Et enfin, et non le moindre, les collectionneurs privés, parce qu'une grande partie de l'œuvre de Le Brun, notamment des tableaux, est encore conservée soit chez des particuliers, soit dans des galeries d'art. Or, c'est peut-être même ce qui est le plus intéressant, puisque c'est des œuvres que le public ne voit pas. Donc ça permet aussi de redécouvrir un nouveau Le Brun. Donc on a une partie importante de l'exposition qui est conservée en main privée.
Donc quand on voit la taille de cette exposition, hein, qui bénéficie quand même d'une belle surface au Louvre-Lens, on est assez impressionné et on se demande comment un homme seul peut réaliser l'ensemble. Évidemment, on ne peut pas le faire seul.
Voilà, mais c'est une question absolument. Là, vous êtes avec cette question, vous êtes au cœur du projet de l'exposition. Le Brun, c'est un nouveau style, c'est le créateur d'un style, mais ce style, il est incarné, si je puis dire, par de très nombreux collaborateurs que Le Brun a su discerner. Et donc, il fallait aussi montrer ça dans l'exposition. Donc, vous n'avez pas que Le Brun. Vous avez des œuvres qui sont réalisé par les collaborateurs. Là, on est dans la salle des grandes sculptures, donc évidemment, ce n'est pas Le Brun qui les a sculptées. On a Girardon en face de nous, un maître absolu de la sculpture, mais il y a Laurent Magnier, il y a Rognodin, donc d'autres sculpteurs, bien d'autres peintres, d'autres artistes. Et effectivement, il fallait que l'exposition permette de comprendre que Le Brun est aussi un maître d'œuvre, aussi un chef d'orchestre des arts, et qu'il n'était pas tout seul pour réaliser tout ce que l'on voit dans l'exposition, donc encore une fois, plus de 230 œuvres.
Donc Louis XIV, c'est bien sûr le faste, et puis c'est une époque aussi très riche artistiquement. avec de grands noms. On a parlé de Lebrun, on pourrait en citer d'autres à cette époque.
Bien entendu. Alors, il est clair qu'au fur et à mesure des salles, lorsqu'on chemine dans l'exposition, on a des échos de Rubens. Rubens, le grand artiste flamand. Lebrun est d'une certaine manière le Rubens de la France. C'est évident qu'on voit les œuvres. Il y a Nicolas Poussin, évidemment, le grand maître du classicisme. Eh bien, Lebrun a accompagné Poussin lorsque celui-ci est retourné à Rome en 1642. Donc, et c'était son modèle absolu. Il y a donc tous ces grands artistes. On pourrait parler du Bernin. Il y a eu une rencontre Lebrun-Bernin en 1665, lorsque le Bernin vient en France, appelé par Louis XIV pour reconstruire le Louvre. Donc, évidemment, tous ces grands noms des arts sont dans l'exposition, sont dans les œuvres, mais il y a aussi les grands noms de l'histoire de France, parce que à côté des artistes, il y a les commanditaires, et les commanditaires de Lebrun, bah, c'est Fouquet. On connaît Fouquet, on connaît Colbert, on connaît Louis XIV, il y a Louvois encore, donc il y a tout un pan de l'histoire de France qui est là aussi dans l'exposition.
Pour faire dialoguer ces œuvres, pour les présenter, voire les représenter, quand elles ont déjà été présentées, il fallait quelqu'un qui s'attelle à la mise en place en espace et puis aussi à créer des, justement dans ce lieu qui est grand du Louvre-Lens, des modules qui permettent de mettre chaque œuvre en valeur ou en échange avec d'autres.
Absolument. Pour réussir une exposition comme celle-ci, avec un artiste qui fait des œuvres absolument monumentales dans toutes les techniques, avec de nombreux collaborateurs, il fallait évidemment un geste scénographique très fort. Alors d'abord, il fallait un espace. Et donc, ce que nous permet d'avoir le Louvre-Lens, c'est 1400 mètres carrés, un immense espace qu'on peut remodeler. Et pour le remodeler, effectivement, il faut un geste scénographique très fort. Il faut que la scénographie soit présente. Alors nous, on a voulu avec Bénédicte qu'elle soit très moderne. On ne voulait pas refaire du 17e parce qu'on l'aurait mal fait. On voulait au contraire une rencontre entre un créateur contemporain, un scénographe, c'est un créateur, et un grand artiste du passé. Et c'est ce qu'on vous propose dans l'exposition. Donc le scénographe, c'est Maciek Fischer, quelqu'un avec qui la rencontre a été une belle aventure, des dialogues vraiment très riches, très féconds, et qui a su proposer une vision très moderne et très nouvelle et une véritable mise en scène d'un artiste qui était lui-même un metteur en scène.
C'était Nicolas Milanovic, conservateur en chef du département des peintures du musée du Louvre, commissaire de cette exposition, qui a fait appel pour la scénographie au talent de l'atelier de Maciek Fischer, qui nous explique la façon dont il a abordé l'installation de cette exposition.
On a un cahier des charges au début avec une liste d'œuvres, un espace qui est donné, et on essaye d'articuler vraiment toute l'exposition de façon à créer un parcours assez contrasté, qui soit intéressant, qui soit sensible, qui permette vraiment au public d'appréhender l'œuvre de l'artiste dans les meilleures conditions possibles. Donc là, l'enjeu, c'était d'essayer de créer une dynamique vraiment d'espace, de circulation. Donc à chaque fois, il y a des géométries qui sont imaginées pour chaque salle, qui sont vraiment spécifiques, qui accompagnent à la fois le format des œuvres et les points de vue, en fait, la façon dont on va enchaîner, la façon dont le public en fait passe d'une salle à une autre, et avec des axes qui sont des axes de regard qui sont vraiment réfléchis, évidemment tout ça en accord avec les commissaires, de façon à donner du sens en fait à la lecture du parcours. Voilà. Donc après, il y a un choix aussi de couleurs assez franc qui a été pris sur l'exposition, de façon à créer aussi une dynamique visuelle et à agrémenter vraiment le visiteur et la visite.
Comment on arrive avec des couleurs aussi puissantes à garder aux œuvres leur personnalité ?
Ben, disons que là, après, la lumière fait beaucoup. Alors, c'est un travail qui est assez compliqué parce que, en fait, vous choisissez des couleurs sur échantillon, donc vous les mettez en place, et ensuite, on travaille avec l'éclairagiste pour atténuer les choses ou rehausser les choses. Donc, c'est tout un processus, en fait. Après, ce sont des choix. Parfois, on prend des parties prises. OK, on se dit, il faut que ça marche. Et puis, on essaie de faire en sorte que ça marche. On regarde les œuvres, évidemment. On fait faire des échantillons, des tirages avec des imprimantes jet d'encre, des reproductions des œuvres qu'on confronte avec les couleurs aussi pour vérifier la faisabilité de la couleur. Ça se travaille petit à petit, en fait. On a 3-4 phases, en fait, de lors de la création de la scénographie. On a 4 phases clés, on va dire, du processus, où à chaque étape, en fait, on remet tout à plat, on présente les choses, on retravaille les choses. C'est un travail sur 10 mois à peu près.
C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a 30 ans.
Je sais pas. En fait, avant, on travaillait beaucoup sur maquettes. J'ai beaucoup travaillé sur maquettes. Maintenant, avec les outils informatiques, évidemment, on a d'autres facilités. Des avantages, des inconvénients. plutôt des avantages, on va dire, sur le fait qu'on puisse vraiment simuler l'espace et se plonger dedans. En fait, on fait vraiment, on arrive à faire des vraies visites virtuelles. Après, moi, voilà, il y a un moment donné, c'est l'épreuve du chantier, de l'échantillon. On fait des échantillons sur place, on fait des échantillons grandeur nature, etc. Donc, c'est quand même, on a beau travailler sur maquette tant qu'on n'a pas les choses. En plus, l'espace ici est assez compliqué. La salle est en pente, la salle est courbe. C'est pas si simple que ça. Donc, on a beau se modéliser, ça donne pas toujours la même chose. Et on a fait une chose qu'ils n'avaient jamais faite ici, c'est-à-dire qu'on a peint les murs extérieurs à grande hauteur en couleur. Ce qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été fait. Et ce qui aide beaucoup, je pense, vu le format des œuvres, à donner aussi un côté assez immersif à l'exposition.
La préparation de cette exposition Charles Lebrun au musée du Louvre-Lens a nécessité le travail conjoint de deux commissaires. Nous retrouvons Bénédicte Gady pour évoquer la vie et l'œuvre de Charles Lebrun.
Alors, Bénédicte Gady, G-A-D-Y, je suis collaboratrice scientifique au musée du Louvre et co-commissaire avec Nicolas Milovanovic de cette exposition.
Donc Charles Lebrun, quelqu'un dont on connaît bien le nom, les œuvres, on les associe en général à Louis XIV, mais ici on a un ensemble incroyable qui présente les œuvres, on va dire, depuis presque son enfance.
Oui, absolument. C'est un des miracles de la recherche récente, c'est qu'on a pu redécouvrir tout un ensemble d'œuvres de sa jeunesse. Donc l'exposition a une visée rétrospective, on refait tout le parcours de l'artiste et on commence à passer une première salle sur la gloire de l'artiste qui permet de replanter en quelque sorte le décor historique. On commence par les œuvres que Lebrun a peintes quand il avait 13, 14, 15 ans, quand il était adolescent. Alors c'est absolument étourdissant parce que c'est plein de saveurs naïves. Ce sont pour l'essentiel des petits tableaux qu'il a peints pour la gravure populaire. En fait, ce sont des petits modèles. Ce ne sont pas des tableaux pour des tableaux, ce sont des tableaux pour servir de modèle aux graveurs. Et alors on voit l'enfance, on voit des figures qui représentent des saisons, on voit de la figure des figures de dévotion, bien entendu. Et tout ça sur des panneaux de bois peints en camaïeu. Enfin, c'est vraiment aux antipodes de l'image dans Lebrun qu'on a, peintre de la Galerie des Glaces. Et Lebrun est très très jeune. De même, on peut présenter un portrait qui se trouve à Salzbourg, qui est le portrait que Lebrun a peint de son père quand il était adolescent. Et on voit toute, à la fois ses maladresses de jeune artiste, mais aussi tout son talent pictural et toute sa volonté de transformer la figure de son père en la figure d'un artiste érudit, alors que son père était un sculpteur vraiment de second plan.
Donc après, il y a toute une période italienne.
Alors après, il y a toute une période italienne. Quand il est à Paris, pardon, dans les années 30 et qu'il fait ses petites œuvres, il est découvert par le chancelier Séguier, qui est le premier grand officier du royaume. Et Séguier le protège, lui fait rencontrer des lettrés, lui fait rencontrer Nicolas Poussin, et Séguier l'envoie en Italie. Un peu contraint et forcé, il faut bien dire. On pense toujours que les artistes vont en Italie plein d'enthousiasme. Alors Lebrun était peut-être très enthousiaste au début, mais au bout de 8 mois à peine, il demandait à rentrer en France. Il considérait qu'il avait tout vu et qu'il devait reprendre sa carrière parisienne qui avait fortement commencé. Et donc, Lebrun passe 3 ans en Italie où il copie Poussin, il copie l'antique, il copie les grands maîtres. Il réinterprète tous ces artistes parce qu'il a une capacité à absorber les styles et à se les approprier qui est tout à fait stupéfiante. Et il le fait de manière très rapide, encore une fois. Donc, très vite, il veut rentrer. Et il finit par rentrer sans l'autorisation de son protecteur, à qui il écrit quand même quelques mois plus tard pour lui dire « Écoutez, envoyez-moi de l'argent parce que je ne peux plus. Je suis arrêtée à Lyon, faute de sous. » Et Séguier lui renvoie de l'argent et continue à le protéger ensuite quand Lebrun reprend sa carrière parisienne.
Alors à ce moment-là, comment on reconnaît, on identifie un Lebrun et un Poussin ?
Alors, au cours des premières années qui suivent son retour à Paris, Lebrun est encore hanté par le modèle de Poussin et il fait des tableaux qui sont très proches pour certains, notamment le Frappement du Rocher qui est entré au Louvre sous le nom de Poussin et qui a été réattribué à Lebrun au début des années 60 grâce au dessin préparatoire, faute de quoi on aurait vraiment eu du mal à distinguer. Ce qui caractérise, si vous voulez, on a plusieurs étapes dans l'inspiration poussinesque. On a des tableaux qui sont vraiment des pastiches et que Lebrun a fait pour les faire passer pour des poussins, pour montrer qu'il était capable de faire aussi bien. C'est une sorte de démonstration hein, de talent. Et puis des tableaux qui sont plus des réinterprétations, où il met plus de lui-même, et notamment souvent plus de fougue, plus d'énergie, plus d'audace. Par exemple, le massacre des innocents est marqué en son centre par l'arrière-train d'un cheval. Enfin, c'est incroyable comme cadrage. Et puis on y voit les enfants écrasés, enfin toute une veine très rubénienne. Dans d'autres cas, c'est le format qui est transformé, où Lebrun fait du Poussin mais en grand, puisque Lebrun a vraiment un talent pour le grand format, hein, pour tout ce qui est épique. Donc on distingue au cas par cas hein, Lebrun d'un Poussin en fonction de cette saveur toute personnelle hein, de celui qui allait devenir premier peintre du roi.
Donc cette puissance, voire cette violence, est-ce que c'est aussi une des parties de la commande de Louis XIV?
En fait, selon les cas, selon les chantiers, la commande prend des aspects différents. Au début du règne de Louis XIV, Louis XIV se veut un roi bienfaisant pour son peuple, pour ses sujets. Et ce que conçoit Lebrun à la Galerie d'Apollon, au Palais du Louvre, qui était le palais du roi à Paris, ce que conçoit Lebrun à la Galerie d'Apollon, c'est vraiment autour d'une thématique solaire, mais c'est un Apollon bienfaisant. Si vous voulez, tout tourne autour du thème d'Apollon, mais c'est Apollon dont le rayonnement, le soleil dont le rayonnement permet le déroulement des saisons, permet le développement des fruits, des fleurs, qui c'est vraiment un Apollon cosmique et bienfaisant. Quelques années plus tard, après les grandes guerres Louis XIViennes, les décors que Lebrun conçoit pour Louis XIV sont beaucoup plus belliqueux en quelque sorte. Et ce qui nous paraît par exemple très symptomatique de ce changement, c'est le premier projet de Lebrun pour la Galerie des Glaces à Versailles. Le premier projet était sur le thème d'Apollon, mais ça n'a rien à voir avec l'Apollon du Palais du Louvre. C'est un Apollon qui punit les enfants de Niobé, qui punit Marcia. C'est vraiment toujours un Apollon en guerre. Et il s'agit de bien montrer que Louis XIV est garant de la puissance de la France contre ses ennemis. Et le voile d'Apollon, en fait, ne change rien à la nature du discours. Et puis finalement, ça ne plaît pas. Lebrun fait un projet sur le thème d'Hercule, qui lui est le dieu de la force. Là, pour le coup, le choix est explicite. Et puis finalement, c'est Louis XIV lui-même qui est représenté, mais toujours dans ses actions guerrières.
Donc quand on dit il est représenté, ça veut dire qu'il pose.
Oui, il pose. Alors il pose, il est représenté agissant, mais aussi posant. En fait, il est représenté presque comme un dieu. Hein. Il est en cuirasse à l'antique avec une perruque à la moderne. Donc ça fait un contraste qui est un peu surprenant pour nous, mais qui simplement entend traduire la majesté. C'est un code de représentation qui était courant à l'époque. Ce qui n'est pas courant, c'est de représenter Louis XIV, enfin ce qui est de représenter le roi, au milieu des divinités. Et là, on voit vraiment Louis XIV en train de discuter avec Mars, avec Jupiter. Enfin, Louis XIV est quasiment Jupiter. Hein. Dans la prise de gants, il est sur un char, il tient le foudre et on a l'impression que lui-même est Jupiter. Donc c'est cette confusion, en quelque sorte, entre le règne terrestre et le règne des dieux mythologiques, qui ne sont que des allégories, hein, qui ne sont que des symboles pour les gens du XVIIe siècle, qui est innovante.
On voit bien, à l'époque du roi Soleil, il y avait Louis XIV, on ne voit jamais le soleil, c'est lui.
Oui, c'est lui, mais c'est un voile, et tout le monde est conscient que c'est un voile, c'est un type de discours, c'est une métaphore. Donc Louis XIV se fait représenter comme Apollon, ou se fait représenter sous la figure du soleil, parce que c'est l'astre unique et c'est l'astre bienfaisant, encore une fois.
Donc, au-delà de la présentation de Louis XIV, de toutes ses références, il y a aussi une mission, on va dire, presque sociale ou de communication, déjà, du tableau à cette époque-là.
Alors, pour les grands décors, la mission, si on veut la classer comme communication, il faut être très, très prudent sur les termes. On a beaucoup parlé de propagande. Mais si on veut parler de propagande, il faut bien penser que le terme apparaît au XVIIe siècle, mais pour parler de la propagande affinée, la propagation de la foi. Donc il s'agissait, l'Église catholique entendait propager la foi à travers les missions. Dans le cas des grands décors politiques, on n'est pas du tout dans cette perspective-là. On n'entend pas du tout. Louis XIV ne veut absolument pas convaincre ses sujets de sa légitimité, parce que sa légitimité, il pense la tenir à la fois de ses ancêtres et d'un choix divin. Donc les sujets, il doit servir ses sujets, mais il n'attend pas de ses sujets une reconnaissance. En fait, mais pour autant les décors portent un discours. Mais ce discours a pour... D'abord, il frappe par l'ampleur du décor elle-même, avant qu'on entre dans le détail des figures représentées. Et si destinataire il y a, ces destinataires sont d'une part les puissances étrangères, qu'il s'agit de convaincre de la force du roi, de la gloire du roi, de la gloire du royaume. Ça, c'est le premier, ce sont les premiers destinataires, les puissances étrangères. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait graver les œuvres, hein, pour qu'elles soient diffusées au-delà des frontières. Et le second destinataire qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la postérité. Louis XIV entend laisser les traces de sa gloire pour la postérité, c'est-à-dire pour nous. Et quand on voit la fréquentation du château de Versailles, on peut se dire qu'il a vraiment bien réussi son entreprise.
Donc on n'est pas vraiment dans la production de masse, mais on a des déclinaisons, voire des choses qui se sont produites plusieurs fois pour être... confiés à des personnes différentes, hein, des sujets qu'on retrouve et récurrents, des tableaux, on voit en petit format, en grand format, tout ça, ça circule.
Alors, autour de Lebrun, on a vraiment une production qui est une production collective entre Lebrun et les différents artistes de la cour de Louis XIV. Donc souvent, Lebrun donne le dessin à partir duquel il fait un petit modèle peint qui lui-même ensuite est transformé, peint sur les grands décors. Pareil au Gobelin, par exemple, il donne un petit dessin que d'autres artistes spécialistes de figures, d'animaux, de fleurs traduisent en petit modèle, puis en grand modèle pour les lissiers, puis ensuite une nouvelle fois pour la haute lisse, une fois pour la basse lisse. Donc on a une sorte de démultiplication effectivement de l'image, dont la dernière étape est la gravure, puisque la gravure c'est une planche de cuivre sur laquelle on grave un dessin qu'ensuite on encre et puis on peut l'imprimer autant de fois qu'on veut, et c'est ce qui permet de diffuser les images au-delà des frontières et puis dans tout le royaume.
Donc vous parliez de Gobelin, et il y a une très grande tapisserie qui est assez extraordinaire, notamment parce que vous présentez également l'arrière du décor.
Oui, alors c'est une tapisserie qui représente une muse dans un paysage de verdure. La tapisserie est conservée au Mobilier National, donc au Gobelin actuel. Et les tapisseries sont doublées pour pouvoir être présentées de manière verticale, ça toujours, sans quoi elles s'abîmeraient. Mais on a pu faire ouvrir une fenêtre dans cette doublure qui permet de voir le verso de la tapisserie. Et quel est l'intérêt de voir le verso de la tapisserie? C'est d'abord de voir la manière dont c'est tissé, tous les fils, tous les relais. Mais c'est surtout quelque chose qui est très frappant et qui est évident au premier regard, de découvrir les couleurs d'origine. Parce que les tapisseries sont faites à partir de pigments végétaux qui sont très fragiles et qui souvent ont passé. Donc aujourd'hui, elles sont assez ternes. Mais le verso qui, lui, n'était pas exposé, a gardé ses couleurs d'origine. Et là, on voit des roses, des bleus, des verts qui sont absolument stupéfiants. Et ça nous donne une idée de ce qu'était le recto à l'époque.
Donc aussi dans cette catégorie de couleurs très, très nettes et aussi de lumière, certains tableaux sont particulièrement lumineux. Comment faites-vous ?
Comment a fait Lebrun? Nous, on ne fait que régler les éclairages. Et encore, c'est un nous de majesté, c'est l'éclairagiste du Louvre-Lens qui est très doué, qui permet en fait de redonner toute leur profondeur à ces tableaux. Certains ont, en fait, les tableaux ont évolué différemment. Hein. Certains ont perdu une partie de leur glacis et se sont matifiés en quelque sorte. D'autres ont gardé des couleurs qui sont tout à fait éclatantes. Alors, ça dépend des pigments qui étaient utilisés, évidemment. Quand le bleu est fait de lapis lazuli, ben, il n'a absolument pas bougé et vous avez un bleu étincelant. Voilà, selon les pigments qui étaient utilisés, selon le fait que l'artiste peignait en pleine pâte ou avec des glacis, l'évolution au cours du temps a varié. Et puis aussi, bien sûr, selon les conditions dans lesquelles les œuvres ont été conservées par la suite. Et alors, ce qui va être extraordinaire ici, c'est qu'en préparant l'exposition, on a découvert une œuvre de Lebrun qui avait été achetée par Louis XIV en 1695, qui est un Christ au Jardin des Oliviers, qu'on ne connaissait que par des dérivations, comme vous disiez tout à l'heure, d'autres versions, soit par Lebrun, soit par son atelier, soit par Lebrun et son atelier. Et donc là, on a remis la main grâce aux archives, enfin une recherche tout à fait digne d'une enquête policière, sur le tableau qui était entré dans les collections royales en 1695, qui avait été déposé à l'abbaye de la Trappe, qui est revenu au musée du Louvre, mais il est tellement noir qu'on ne voit quasiment pas le dessin. Mais donc on a pu le pister, et donc il est aujourd'hui au Louvre-Lens, mais pas dans l'exposition, parce qu'on ne peut pas présenter une œuvre toute noire, mais en revanche, il est dans les ateliers de restauration du Louvre-Lens, et il va faire l'objet, en parallèle de l'exposition, d'une restauration visible. Et alors on a fait une première fenêtre de restauration, où on voit que le bleu utilisé précisément est un lapis, donc tout à fait éclatant, et ça donne une idée de ce que l'on va redécouvrir. Et donc ça, c'est absolument merveilleux de penser qu'en même temps qu'on expose le brun, on redécouvre pas à pas une de ses œuvres qui retrouve sa splendeur matérielle.
Est-ce que c'est plus facile justement quand on organise une exposition sur un artiste de restaurer une de ses œuvres ? Est-ce que c'est une mobilisation supplémentaire ?
Oui, mais l'exposition permet de mobiliser les énergies à tous les niveaux, hein, bien entendu. Nos énergies à nous, et je pense qu'on n'aurait pas fait cette découverte si on n'avait pas eu ces délais. Et ça relance les recherches, ça évite de s'éparpiller dans plein de recherches différentes. L'énergie du musée du Louvre-Lens, les moyens qui sont mis à disposition pour ces restaurations visibles. On a aussi fait une restauration visible d'un carton pour la Galerie des Glaces, qui lui, cette restauration est achevée, donc le carton est présenté dans l'exposition. Et puis, ça mobilise les énergies des collègues étrangers, qui eux aussi se penchent sur les Lebrun qui sont dans leur collection. Donc vraiment, c'est un grand moment de redécouverte collective.
Un catalogue ?
Oui, un catalogue extraordinaire, 440 pages avec contributions des professeurs d'université, de notaires, des collègues étrangers du Métropolitain. Vraiment une œuvre, là encore, collective, où on a pu révéler toutes les découvertes des 10 dernières années, et elles sont très nombreuses. Et puis un colloque aussi, au cours duquel nous ferons parler les jeunes chercheurs, parce que Lebrun connaît un regain d'intérêt auprès des jeunes chercheurs, et donc interviennent des étudiants de maîtrise, de doctorat, qui viennent juste de soutenir leur thèse, l'une sur les décors de Volvicomte, l'autre sur l'image de la charité, notamment autour de Lebrun et de Saint-Vincent-de-Paul. Donc vraiment toutes ces énergies qui vont trouver là à s'exprimer.
C'était Bénédicte Gady, co-commissaire de l'exposition Charles Lebrun, le peintre du Roi Soleil, qui accueillera le public donc jusqu'au 29 août 2016 au musée du Louvre-Lens. Attention, comme son grand frère aîné de Paris, le musée du Louvre-Lens est fermé le mardi. Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.